Quelqu'un vous a écouté attentivement, c'est le cinéaste Bertrand Tavernier qui est dans notre studio. Bertrand Tavernier, vous connaissez bien la police pour l'avoir filmé, la brigade des stupes, notamment dans L627. Mmh. Cette réaction de colère des policiers?
Je peux le comprendre. En effet, ils ont été souvent abandonnés. Souvent, les moyens qui sont promis n'arrivent pas du tout sur le terrain. Il y a plusieurs journalistes qui l'ont montré, ça. Qu'il y a pendant toute l'époque Sarkozy, ça a été catastrophique. Catastrophique. Sarkozy a fait campagne là-dessus et c'est lui qui a supprimé les écoles de police, qui a diminué les moyens, qui a fait des fausses réformes.
Vraiment, vous l'avez vu, on vous l'a dit.
Il a détruit les renseignements généraux. Et ça, j'ai vu, je connais des policiers qui étaient des gens qui étaient infiltrés, qui connaissaient. La police de terrain a été abandonnée au profit de comme ça, parce que ça lui déplaisait, parce que les renseignements généraux ne l'avaient pas aidé dans l'affaire Clearstream. Voilà, c'est tout. Que malheureusement, il y a eu la gauche a de son côté aussi cette espèce de langage d'avoir très très peur. On le voyait à l'époque de L627, ils osaient pas en parler. Ils osaient pas affronter le problème. Et c'est en ne les affrontant pas qu'on ouvre les portes au Front National.
Et quand vous avez filmé L627, quand vous avez passé du temps avec les policiers, ils étaient déjà, selon vous, désenchantés, malheureux?
Il y en avait certains qui l'étaient, qu'ils étaient jamais écoutés vraiment par leur hiérarchie. Et là, maintenant, je crois que c'est devenu de plus en plus difficile. Les policiers de terrain qui me disent qu'ils n'arrivent pas à parler de ce qu'ils ressentent. Qu'il y a tout un... je pense que... On a fait des réformes en multipliant des couches en multipliant des couches de responsables au-dessus des policiers de terrain, mais pas en écoutant. Je trouve qu'on n'écoute jamais les gens qui scoltinent ça. Par exemple, moi, mon co-scénariste, Michel Alexandre, j'avais jamais pu obtenir qu'il soit reçu par des ministres ou des pourtant ça faisait 10 ans qu'il était sur le terrain sur la lutte quotidienne contre la drogue. Il avait des choses intéressantes à dire dans la manière dont on n'éduquait pas les policiers à cette lutte, on leur donnait pas ni les moyens ni le bagage. C'est évident, ça.
On quitte un peu le sol en écoutant un extrait de French Cancan de Jean Renoir, le générique. La musique de Georges Van Paris, avec vous, Bertrand Tavernier. De Georges Van Paris et celle qui fredonne, c'est Zoé Sfez qui Bonjour. Est avec nous en studio. Bonjour Zoé, pour dialoguer en compagnie de Bertrand Tavernier. Là aussi, on retrouve votre souci de la musique, Bertrand.
Oui, Georges Van Paris était un mélodiste extraordinaire. On lui doit déjà dans ce film, cette mélodie qui a servi pour la chanson La Complainte de la Butte, dont les paroles étaient écrites par Jean Renoir.
Reprise par Moody, après.
Hein dont on se souvient tous avec des paroles effectivement merveilleuses, avec une évocation...
Nous pouvons la chanter ensemble.
Parce que l'un des thèmes... Ah bah écoutez, allez-y. Hein,
oui, si oui. Allez-y, les escaliers de la butte sont durs aux miséreux.
Les ailes du moulin protègent les amoureux.
Oui. Vous n'osez pas chanter, hein, quand même.
Non, pourtant je la chante très souvent, cette chanson. C'est une berceuse officielle de ma vie.
Et puis on voit la butte aussi dans votre film Bertrand Tavernier. On la voit filmée avec Bob le Flambeur, avec les petits matins de Pigalle. Le jour s'est levé sur Paris maintenant, il y a du soleil sur la Tour Eiffel, mais on voit des scènes nocturnes de Paris et vous montrer à quel point Paris a été l'un des sujets du cinéma français. Et c'est vous, le Lyonnais, qui l'avez montré, Bertrand Tavernier.
Bob le Flambeur, moi ça m'avait marqué, c'était un choc justement, l'aube plutôt que la nuit, la fin de nuit, le crépuscule du matin, comme dit la voix de le commentaire qui est dit par Melville. Ça m'avait énormément marqué dans ce cinéma lyonnais où je découvrais cinéma, comme je précise, où il y avait du striptease à l'entracte. C'était une époque.
Et on vous laissait y aller.
Je devais avoir plus de 16 ans. J'avais le droit de voir une femme nue. Mais c'était formidable de découvrir un film à chef-d'œuvre. Enfin, le numéro de striptease n'était pas terrible. Mais ça avait été un choc, ce film.
Pourquoi?
Le ton, la désinvolture du film, ces plans d'extérieur, justement, sur un Paris à l'aube, que on voyait pas beaucoup dans les policiers français de l'époque, qui d'abord parce que c'était les moyens techniques, la pellicule parfois empêchait de capter ces moments. Et là, il avait fallu que ce soit un chef opérateur formé au documentaire, qui était Henri Decas, qui avait réussi ces plans qui sont tous formidables. Cette lumière qui dure pas très longtemps, qui est juste le moment entre la nuit et le jour qui se lève, le moment où les enseignes lumineuses disparaissent. Tout d'un coup, il y avait un côté magique là dans ces plans de Bob le Flambeur.
Et une manière effectivement de filmer des scènes qu'on a déjà vues tant de fois pour faire en sorte qu'elles apparaissent comme neuves, le funiculaire de Montmartre qui descend dans la brume.
Bien sûr, c'est ce qui me touchait dans ce film. Par exemple, il y avait un moment où les gens qui vont faire un coup, les gangsters qui vont faire un coup dans le casino de Deauville, essayent de repérer les lieux. Et Melville a mis la caméra dans la voiture. Il n'y avait pas de transparence, comme d'habitude, dans les pensions. On tournait vraiment dans une voiture. Et on fait le tour du casino de Deauville, pratiquement en temps réel. Et ça, c'était un genre de scène qu'on n'avait pas vu dans le cinéma français à ce moment-là.
Zoé Sfès, puisque vous ne voulez pas chanter, parlez.
Eh bien, écoutez, je parlerai, mais alors justement, dans les plans qu'on retrouve, les analyses qui sont les vôtres dans ce merveilleux film, vous mettez à côté de grands réalisateurs qu'on connaît tous au moins, de nom, Becker, Renoir, etc. Vous parlez notamment de Jean Sacha et vous parlez de Edmond Tégréville, qui est un cinéaste relativement peu connu. D'ailleurs, vous le savez, vous redites à peu près toute son histoire dans le film. Et notamment, en termes de plan, on découvre une forme de créativité absolument incroyable chez ce réalisateur. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et pourquoi vous avez choisi de le mettre à côté de figures tutélaires aussi, aussi importantes et aussi connues?
On découvre aussi de très très beaux plans chez Jean Sacha, qui sont très influencés par Welles. Et hier, à Lille, où j'étais pour présenter mon film, je suis tombé sur un spectateur qui m'a dit merci. J'ai vu, dans mon ciné-club, j'ai passé 4 films de Jean Sacha. Tout d'un coup, je tombais sur quelqu'un qui me disait que OSS 117 n'est pas mort, et digne d'Anthony Mann, ce qui était un poil exagéré. Mais Edmond Tégréville, mais comme Jean Sacha, étaient des metteurs en scène tout à fait passionnants. Et Gréville est un cas unique dans le cinéma. C'est un réalisateur qui a été tout le temps marginal, qui n'a appartenu à aucun courant, et qui a fait tous ses meilleurs films. Ils sont hantés à la fois par le désir sexuel, par la claustrophobie. Presque tous ses films se passent dans un lieu clos. Là, il a abordé des thèmes que personne n'abordait en 32 ou 33. Il parle de l'impuissance sexuelle et il le fait avec compassion. Il le fait sans ricaner, sans que ce soit un sujet de plaisanterie gauloise. C'est-à-dire qu'il est complètement en empathie avec le personnage masculin qui est devenu impuissant après un accident de voiture. Et ça, c'est un sujet unique. Et tous les meilleurs films de Gréville ont un ton unique. Et bon, voilà, c'est un metteur en scène que j'ai énormément aimé, à la fois comme metteur en scène et comme homme. Et j'avais envie, en effet, de lui rendre hommage.
Il n'y a pas que des cinéastes méconnus, il y a aussi de grands cinéastes et des extraits de films que l'on a tous en mémoire, que l'on redécouvre grâce à votre regard. La scène finale du Mépris, par exemple, celle évidemment où le scénariste Paul Javal, joué par Michel Piccoli, dit au revoir à Fritz Lang.
Monsieur Lang, je viens vous dire au revoir.
Au revoir. Qu'est-ce que vous ferez?
Le point.
Je vais retourner à Rome.
Il faut encore.
Je vais finir d'écrire ma pièce de théâtre.
Bon.
Et vous?
Je termine le film. Il faut toujours terminer qu'est-ce qu'on a commencé.
Quel plan vous faites, là?
Le premier regard d'Ulysse quand il revoit sa patrie.
Ulysse! Oui, je sais.
Il tacle. Au revoir.
Au revoir, monsieur Long.
Au revoir. À bientôt, j'espère.
Ulysse, vers la mer.
Ulysse, verso il mare.
Monsieur Long, on est prêt.
Merci.
Silence, on tourne.
Alors, ça n'est pas une scène qu'on trouve dans votre film. Dans votre film, Bertrand, on a la scène du mépris où l'on voit Bardot allongé, dont on a diffusé un extrait tout à l'heure. Il faut que vous nous révéliez le secret du mépris. Pourquoi ce film est-il toujours aussi magique alors que peut-être d'autres films de Godard, sans manquer de respect à personne, n'ont pas vieilli de la même manière?
Oh, je sais pas. Bande à part est un film formidable. Vivre sa vie aussi, Passion aussi, Sauf qui peut la vie aussi. Non,
vous voyez, vous en avez oublié quelques-uns, mais répondez sur le mépris.
Non, mais le mépris est un, je trouve, c'est à la fois un grand film lyrique et un film sur la création. C'est un film, je trouve qu'il y a un élan, il y a une émotion, et c'est un film aussi sur comment les relations ne marchent plus entre un homme et une femme, ce qui est un thème très très cher à Godard, qui à l'époque, sans doute, il y avait quelque chose d'autobiographique dans ses rapports avec Anna Karina, et tout ça, qu'il met dans le film, et qui est, que je trouve, moi, bouleversant. Bouleversant. On entend sa voix, d'ailleurs, hein, dans ce que vous avez passé, que j'ai pas passé, c'est la voix de Godard qui dit, qui lance les commandements, là.
Ulysse El Mare, d'accord.
Hein, voilà.
Mais pour quelle raison, puisque vous expliquez là aussi que votre vie était assez compliquée, Bertrand Tavernier, à l'époque vous étiez l'attaché de presse de Godard, on vous demandait d'avoir des renseignements précis sur le film et le scénario que Monsieur Godard avait rédigé, alors qu'évidemment Godard ne rédigeait absolument rien, et filmait comme il se levait, avec une précision diabolique, mais avec une impréparation radicale.
Impréparation, je ne sais pas si c'est impréparation, dans sa tête il l'avait, mais il le donnait au dernier moment. Mais moi, mon rôle était en effet un peu inconfortable, puisque le producteur, Georges de Bourgard, me demandait, me donnait commission de dire aux journalistes que ce film était très différent. Que, pour une fois, Godard travaillait avec un vrai scénario, d'après un livre de Moravia, que tout était, en fait, il allait faire un film normal, un film mainstream. Et c'était pas du tout le cas. C'était pas du tout le cas. Donc j'étais un petit peu... Je ne répercutais pas complètement ce que me demandait Bourgard, parce que je savais que c'était impossible à tenir face aux journalistes, qui se seraient moqués de moi, après. Donc, c'est vrai que Godard piétinait toutes les conventions. Il cherchait quelque chose de rare, comme il le dit, peut-être plus à faire des films sur le cinéma qu'à raconter des histoires. Et je trouve que là, dans cette période, les films sont magnifiques et ils sont beaux. Visuellement, ils sont d'une beauté visuelle. La photo de Raoul Coutard est sublime dans ces films.
Comment on fait pour composer une photo pareille?
C'est le à la fois
une,
le,
à la question fois, est bébête, mais
oui, mais c'est à la fois le génie de Godard et de Coutard, qui était quelqu'un qui prenait des risques, qui savait utiliser les objectifs, la lumière naturelle. Mm-hmm. La lumière naturelle. Les films de Godard, contrairement à beaucoup de films français en couleur qui précèdent, qui sont généralement assez moches. Hein. Les chefs opérateurs français en couleur ont eu à peu près 10 ans ou 15 ans de retard sur les Anglais ou les Américains. Et là, Coutard, lui, il sait utiliser la lumière naturelle, il sait capter, il avait une sensibilité qui lui permettait de tenter des choses que les chefs opérateurs classiques n'osaient pas tenter. Ils suréclairaient tout. Et Coutard, lui, il avait plutôt une tendance à utiliser peu de lumière. Et ça donne des résultats magnifiques. Et les plans d'extérieur, aussi bien de Pierrot le Fou que du Mépris, sont d'une beauté extraordinaire, extraordinaire.
Vous racontez justement dans Voyage à travers le cinéma français comment vous avez invité Aragon à aller voir Pierrot le Fou. Oui. Aragon qui est presque sans voix devant la beauté de ses plans.
Oui, c'était Aragon puisque mon père l'avait caché pendant la guerre.
Il faut rappeler peut-être, Bertrand Tavernier, que votre père avait été poète, avait une revue de poésie.
Confluence, qui n'était pas une revue tellement dans la mouvance de Vichy. Il avait d'ailleurs traduit dans un exemplaire de la revue plusieurs chapitres de Pour qui sonne le glas, qui n'est pas un livre, qui était quand même un livre un peu antifasciste, disons-le nettement.
Légèrement.
Et il avait caché Aragon.
Et Elsa.
Et Elsa, oui. Et lequel Aragon, j'ai retrouvé ça justement avec quelqu'un qui est agronome, me dit, oui, Aragon a passé beaucoup de temps dans le grenier. Et puis j'ai dit, mais le grenier, c'est ce qu'il a écrit après, c'est pour ça que mon père s'est brouillé avec lui. Il avait le deuxième étage de la maison et la seule chambre avec une immense salle de bain. Et donc après dire qu'il s'était caché dans un grenier, là. Mais bon... néanmoins, je l'ai appelé, moi, quand j'étais attaché de presse à Rome Paris Film, tout de suite, Bertrand, vous êtes, et il est venu le lendemain voir le film, et ils étaient tous les deux très, on vous a fait sauter sur nos genoux, oh là là, Elsa, ne tarissez pas d'éloges, et moi, je disais, je suis désolé, j'ai pas de souvenir, j'avais 2 ans, je me souviens pas d'avoir sauté sur les genoux d'Elsa Triolet, ce qui est très très dommage.
Vous n'aviez pas dit que pour Elsa, on écoute un extrait de La Grande Illusion, un extrait particulièrement émouvant.
Arrêtez les copains. On a repris du monde. Et c'est eux-mêmes qui l'annoncent.
Master Ace, please.
Pourquoi ce moment de La Grande Illusion vous émeut-il ?
C'est le, vous savez, à cette époque-là, le cinéma était permanent et parfois, moi, j'avais pas beaucoup de temps pour voir un film et même s'il était commencé, je rentrais, quitte à rester après pour revoir le début et voir plus après. Et je rentre à ce moment-là dans le film. Je rentre pendant une scène où il y a des prisonniers qui inventent un spectacle de music-hall. Certains sont déguisés en femmes, ils chantent des chansons. Et tout d'un coup, c'est interrompu par Jean Gabin qui annonce qu'on a repris du Haumont. Et tout le monde se met français, anglais, se met à chanter ensemble la Marseillaise. Et moi, j'ai eu un choc. J'ai été bouleversé. Et je le dis, moi, dans le commentaire, je mélange... Il y a tout qui se mêle. Moi, il y a les histoires sur la résistance, sur le courage des résistants que me racontait mon père. Il y a cette histoire de la guerre de 14. Il y a tout ça se mêle. Et cette Marseillaise, je la reçois, moi, comme quelque chose d'extraordinaire. Et chaque fois que je le vois, ça me donne un frisson. Chaque fois que je le vois. Et la manière dont Gabin l'entonne et la force avec laquelle il l'entonne, je sais pas, c'est pas mieux qu'Emmanuel Macron. Je sais pas, je trouve un peu.
Oui, il faut rappeler qu'on a entendu dans le journal évoquer Emmanuel Macron et la Marseillaise.
Oui.
Je précise, Bertrand Tavernier.
Mais oui, bien sûr. Mais...
Je précise aussi que dans les discours de Jean Renoir et pas dans ceux des politiques, dans les dialogues de Jean Renoir, les regards jouent un rôle important.
Très
et
important.
Vous montrez à quel point Gabin, avec quelques regards, réussit à convoquer toute une atmosphère de la guerre de 14.
Mais bien sûr, il le fait très très facilement. Et là, quand il chante la Marseillaise, il s'adresse directement aux soldats allemands. Il le regarde et cette Marseillaise, du coup, devient un hymne à la liberté. Et à la révolte, c'est rien que ça. Il n'y a pas de dialogue qu'il dit. C'est la force de l'interprétation de Gabin.
Vous savez quoi, Bertrand Tavernier ? On va terminer par un hymne au cinéma. Que la fête commence. C'est votre film.
Alors, mesdemoiselles, maintenant disparaissez, s'il vous plaît. Émilie, dévoue-toi. Les dévouements les plus obscurs sont les plus magnifiques, comme disait le grand Corneille.
C'est pas un dévouement. C'est une habitude.
Enfin. Il est bien entendu, je ne suis pas en état de prendre part au jeu.
Alors, je me demande ce que vous faites parmi nous.
Le plaisir des yeux me suffira. Oh, mesdames, je ne joue pas, hein? J'espère que vous me reconnaîtrez.
N'aie pas peur, elles te reconnaîtront à ta poire à poudre.
Bon, ça, c'est pas évident.
Oh, Emily!
Bon, vous avez un gage.
Quel musicien vous auriez été, monseigneur?
C'est inouï tout ce que j'aurais pu être si je n'avais pas été régent, c'est-à-dire rien du tout.
Ah, vous avez perdu, monseigneur. Ça fait deux gars.
C'était pour se faire plaisir, un extrait de la fête
bah, merci,
de Bertrand Tavernier. Et puis on retrouve en salle Voyage à travers le cinéma français, votre documentaire donc. Il aura une suite d'ailleurs, je le précise, il sera également diffusé sous une autre manière, avec un autre découpage sur France 5. Et puis on a également un double CD avec les musiques originales à la fois du documentaire et puis les nombreuses musiques de films que vous appréciez. Vous restez avec nous Bertrand Tavernier puisque nos camarades des matins Zoé Sfez, Mathieu Conquet et Xavier Delaporte vous ont préparé un certain nombre de propos pour que vous puissiez réagir